tel est le miracle de l'école. Un bon professeur peut captiver les classes rétives et rendre vivants les enseignements les plus mal conçus. Il peut tout sauver. François de Clausen est le 25 décembre 1933 à Enghien-les-Bains, est un journaliste et essayiste français. Travaillant dans la presse écrite, il collabore successivement à l'agence France Presse, à Science Avenir, à l'Express, au Nouvel Observateur, à l'événement du jeudi. Notre devise, tous ensemble pour les réussites, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 4 juin 2022. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien, dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour, chers chroniqueurs.
Bonjour.
Notre thème du jour, lassitude et résignation, comment y remédier? Pour cela, nous recevons Monique Fournier, ancien membre du GR21 et co-créatrice de l'émission Pédago Rando, et ancienne chroniqueuse, ainsi que Madame Bouvry-Béatrice, coach à l'association Coaching Sans Frontières. Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du mois?
Oui, depuis quelques années, on ressent de toutes parts, du côté des parents, des professeurs, des équipes éducatives, des jeunes, une lassitude et une résignation à toute épreuve. Quelques sursauts d'espoir entre manifestations et grèves, mais rien n'y fait. La réalité ressurgit et laisse parfois sans voix, sans envie de se battre. Exaspération qui enfle, des professeurs partent et le recrutement devient difficile. Les parents perdent confiance en notre système éducatif. Les jeunes non motivés décrochent. Un remède existe-t-il vraiment? Eh bien oui, car nous avons dans le studio deux femmes, Monique et Béatrice, qui se battent pour apporter leur savoir, leur soutien à ceux qui en ont le plus besoin.
Nous allons demander à Béatrice de se présenter.
Bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice Bouvry, je suis coach à Coaching Sans Frontières et j'interviens depuis 2013 au lycée et au collège de Montataire et depuis 2 ans au collège Avez à Creil.
Coaching Sans Frontières, c'est-à-dire?
Alors, Coaching Sans Frontières, c'est une association qui a été créée par des gens qui avaient, comme moi, fait leur DU de coaching à Paris 2, à SAS. Et donc, nous avions comme objectif, en créant cette association, de mettre le coaching à la disposition de gens qui, habituellement, n'ont pas accès au coaching. Le coaching est traditionnellement réservé aux grands patrons, aux dirigeants d'entreprise. Et nous, notre objectif, c'était de le mettre à disposition au démarrage des chômeurs, au démarrage des créateurs d'entreprises en banlieue difficile. Et puis finalement, grâce à Monique qui m'a fait rencontrer Isabelle Clépal, nous avons fait un virage vers l'éducation. Et essentiellement, maintenant, toutes les missions de Coaching Sans Frontières sont en direction de l'éducation.
Très bien. Ah ben, Monique, on va laisser un petit mot à Monique.
Alors, je m'appelle Monique Fournier-Laurent. Je suis cofondatrice du collectif GR21, groupe de réflexion sur le 21e siècle, qui a été dissous maintenant puisque tout le monde s'est éparpillé dans la France. Mais à l'époque, ce collectif sur l'Oise avait pour but de développer les actions de pédagogues citoyens. On se disait l'éducation nationale n'est pas capable, ne peut pas, c'est pas qu'elle n'est pas capable, c'est qu'elle ne peut pas, pour des questions tout simplement de temps, régler tous les problèmes qu'elle rencontre dans l'éducation nationale au sein de l'école. En revanche, tous les citoyens peuvent faire quelque chose à l'échelle du colibri, mais peuvent faire quelque chose dans l'éducation. Je suis par ailleurs membre de la réserve nationale bénévole, membre de la réserve des bénévoles de l'éducation nationale. Je suis pas du tout issue de l'éducation nationale, je viens de l'entreprise, adhérente à Agir ABCD et bénévole à Énergie Jeune, et à ces titres différents, j'interviens dans les établissements scolaires.
Donc tu es bien occupée.
Pas mal.
Pas mal. Tu parles de réserve bénévole, réserve éducation nationale. Tu fais quoi exactement?
Alors, c'est une réserve qui a été créée il y a pas mal de temps, qui avait été créée par une ministre de l'éducation nationale et qui avait pour but, c'était un appel à bénévoles, qui avait pour but de développer des projets ou d'aider des professeurs ou des équipes pédagogiques à développer des projets pour lesquels ils n'avaient ou pas le temps ou pas toutes les compétences.
Et ça existe toujours ?
Ben oui, ça existe. Et d'ailleurs, ils font appel en ce moment, ne serait-ce que pour renforcer les équipes pour les enfants qui viennent d'Ukraine.
Ah d'accord, très bien.
Comme toute réserve, c'est réservé à des gens qui sont en voie de disparition, quoi. C'est...
voilà, quoi. Les bénévoles aussi sont voilà. en voie de disparition, hein, c'est
non,
vrai.
Non, je ne sais pas. En revanche, c'est très volatile. Donc les associations ont intérêt, associations ou organismes, ont vraiment intérêt à veiller à la manière d'accrocher les bénévoles.
Oui, parce qu'on a vraiment ce problème, hein, toujours. Depuis qu'on se connaît avec Monique, on cherche des bénévoles et c'est vrai que c'est très très compliqué pour les attirer à nous. Voilà, donc oui, alors Madame Clépal, justement, Béatrice nous en parlait. Donc elle est retraitée de l'éducation nationale, exproviseur, donc si je ne me trompe pas, à Montaterre.
Oui, et à Versailles ensuite.
Et à Versailles ensuite, elle n'a pas pu venir ce matin, mais on aura un témoignage de sa part qui sera fort intéressant. Voilà, donc on va commencer directement l'émission. J'avais juste une petite question à poser quand même à Béatrice. Au niveau de Coach Sans Frontières, c'est ça hein, le nom exact, hein. Oui. Vous êtes énormément de coachs. Il n'y a que des coachs ou il y a d'autres
Ah non, Coaching Sans Frontières, c'est une association qui est uniquement réservée à des coachs diplômés, à des coachs qui ont fait leur... voilà. Essentiellement, au démarrage, on a eu des coachs de Paris 2. Maintenant, on a des coachs qui viennent, qui ont fait d'autres types de formations, mais que des coachs diplômés.
D'accord. Vous êtes combien à peu près au niveau...
On est une quinzaine actuellement, une quinzaine. Sur toute la France.
D'accord. Il doit y avoir du travail quand même, hein, parce que 15 pour toute la France, c'est...
Non, parce qu'en fait, on a pas forcément des missions sur toute la France, mais c'est vrai que le fait de, malheureusement, avec la Covid, on a été amené à travailler en vidéo, et donc ça nous a permis de recruter des coachs dans toute la France.
D'accord. Et le Coach Sans Frontières est connu de l'éducation nationale ?
Ben, pas du tout. Elle est connue de là où je travaille, à, c'est-à-dire à Montaterre et à Creil, mais c'est pour le moment pas réellement connue dans d'autres établissements. Il y avait des projets qui étaient en cours et avec le confinement, il y a des choses qui sont arrêtées. Mais on espère que les choses vont redémarrer rapidement.
Oui. D'accord, mais on espère qu'avec l'émission, on va commencer à connaître Coaching Sans Frontières. Oui. Je vois Monique qui lève déjà la main. Vas-y, Monique.
Je voudrais préciser à ce sujet, Coaching Sans Frontières, bien sûr, n'est pas connu au sein de l'éducation nationale, mais d'une manière générale, les ressources ne sont pas connues, et c'est bien normal, qu'il faudrait, comment peuvent-elles être connues, y compris la réserve de l'éducation nationale.
D'accord, oui, alors donc... on va essayer de faire en sorte que... de refaire peut-être une émission là-dessus, effectivement. Voilà, bon, alors on y va. Hein. Donc, l'école est-elle en pénurie ? Alors, devenu un phénomène inquiétant, les départs de certains professeurs se multiplient. D'autres pensent une fuite incomprise, mais que se passe-t-il réellement au sein des établissements scolaires ? Crise de recrutement des enseignants, plus importante que les autres années. Et les concours d'enseignants sont délaissés, manque de candidats admissibles en maths, en Allemagne, en lettres. Les professeurs sont-ils usés, découragés par les réformes successives. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça ? Ou pas du tout ? Moi, je pense notamment à l'Académie de Versailles. Hein, on en a entendu énormément parler ces derniers temps, qui essaie de recruter effectivement des professeurs sur un entretien d'une demi-heure. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le job dating job, job dating. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on voit... certains syndicats, des professeurs qui crient au scandale, puisque ça va être donc des enseignants contractuels et non titulaires, donc sans formation. On promet des formations à partir des vacances, mais qu'en est-il réellement ?
C'est quand même très difficile pour nous qui ne sommes pas, ni les uns ni les autres, autour de la table de l'éducation nationale, d'apporter un jugement là-dessus. Quelles sont les difficultés ? C'est extrêmement difficile. Tout ce qu'on peut dire, en tout cas, quand on travaille avec les professeurs, c'est que ceux avec qui on travaille ont vraiment la foi chevillée au corps.
Ils sont très engagés, effectivement.
Ils sont engagés dans des projets. Forcément, on travaille avec eux sur des projets, donc on connaît ceux-là. Quand on vit avec un professeur pendant quelques heures dans l'école, on mesure la difficulté du métier.
Et l'intensité qu'il faut avoir, effectivement.
Voilà, c'est-à-dire, on dit toujours qu'il faut être dans la bienveillance, certes, mais il faut aussi avoir cette force mentale pour rester dans la bienveillance et être en même temps assez fort pour maintenir la discipline, tout en restant accroché au programme et à ce qu'il faut développer, en cherchant toutes les pistes pédagogiques qui vont pouvoir accrocher les élèves. Chapeau à eux, chapeau à eux.
Oui,
alors
oui.
Après, est-ce qu'il y a un problème autre ? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un métier qui est probablement très, très difficile. Et j'ai tendance à dire, pour travailler avec un certain nombre d'entre eux, que la première qualité qu'il faut, c'est vraiment
la patience.
La foi.
Et la foi.
La patience, oui, bien sûr, mais la foi. C'est-à-dire, il faut être accroché à ce qu'on fait.
Oui, c'est un métier de cœur.
C'est ça.
Tout à fait.
Bah, je pense qu'on ne peut pas tenir le coup.
Comment ?
Ils ne sont pas écoutés, parce que moi, j'ai beau discuter avec certains, ils ont de très, très bonnes idées,
ah oui.
Mais ils ne peuvent pas du tout les appliquer.
Oui,
ça,
alors,
c'est pas possible.
Je pense qu'à ce sujet-là, là encore, c'est comme les moyens dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il y a des moyens à droite, à gauche, mais on ne les connaît pas, alors on ne les utilise pas. Sur ce sujet-là, il y a un tas de choses qu'ils peuvent lancer dans leur établissement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'ose pas ? Est-ce qu'on ne trouve pas le temps d'y réfléchir ? Est-ce qu'on ne trouve pas l'aide qui va pouvoir apporter un peu de souffle et permettre de développer quelque chose ? Mais en tout cas, on entend souvent « on ne peut pas ». Il y a quand même plein de choses qu'on peut faire. Et d'ailleurs, Isabelle Clépal apporte un témoignage aussi là-dessus. Il y a plein de choses que les gens peuvent faire, que les équipes peuvent faire dans leur établissement. Tout n'est pas complètement coincé en haut avec des interdictions dans tous les sens.
Alors là, c'est vrai, le fait de prendre des jeunes qui ont licence 3 et de les prendre comme ça au pied levé, hein, c'est qu'à de le dire, il y aura quand même peut-être un problème au niveau de la formation, au niveau des techniques pédagogiques, et ça risque peut-être de faire défaut aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont avoir le temps ? Est-ce qu'on va mettre quelqu'un avec eux pour les aider ? Ça risque d'être assez compliqué. Mais bon, effectivement, de toute façon, c'est critiqué énormément par les professeurs, par les syndicats, mais il faut faire quelque chose. Il manque beaucoup de professeurs, donc il faut vraiment trouver une solution pour septembre. Mais c'est le cas au niveau des professeurs de maths, allemand, etc., mais aussi au niveau des enseignants en primaire. Toi, Jackie, ton fils qui a passé le CAPES, hein, oui. Effectivement, c'est une formation quand même assez lourde au départ qu'ils ont, les professeurs.
Bac plus 5,
d'accord. Et il y a eu toute une formation pédagogique, je suppose.
Ah oui, avec un tutorat la dernière année, en master dernière année avec un tutorat.
Donc le tutorat, une année de stage en fin de compte.
Ah bah une année dans des classes complètes, mais sous l'égide d'un tuteur qui est là pour le soutien et autres.
Mm-hmm. Donc là, il faut espérer... Vas-y.
Oui, là, je voulais revenir certainement à ce qu'on disait. Là, il y a quand même, bon, sur la dévalorisation, il y a le peut-être... C'est que, bon, j'ai regardé un petit sondage qui était fait avec différents organismes, et qui vient de sortir il y a quelques temps. Et c'est vrai que là, on voit quand même, il y a une dépréciation du métier du professeur, hein, de toute façon.
Sur quel registre donc,
sur le thème général, hein, ils mettent à quelques questions, notamment une importante, hein, qui est sur la fatigue, la colère, enfin fatigue, ils mettent fatigue, colère, déprime. Seuls 22% des enseignants recommanderaient le métier en ce moment.
Oui, c'est vrai. Je l'ai lu aussi.
Par contre, 92% aiment leur profession.
Oui.
Donc il y a quand même une.
Heureusement pour l'avenir.
Voilà.
Oui, c'est l'UNSA. C'est l'UNSA Éducation, voilà. En fin de compte, qui vient de publier son baromètre annuel qui révèle un profond mal-être chez les profs.
Et avec l'IFOP, enfin, il y a différents organismes officiels. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, dans son sondage, il y a aussi 58% qui dénotent une énorme fatigue. Donc il y a quand même des gros problèmes. Et il y a peut-être aussi tout ce qui est dévalorisation. Là, on met dévalorisation au fil du temps. 42% trouvaient que le métier avait une reconnaissance il y a entre 5 à 10 ans. Et maintenant, on voit très bien que 27% disent qu'ils ne se retrouvent plus dans cette reconnaissance et ce respect du métier.
Oui, c'est vrai qu'il faut se poser la question pourquoi ce métier n'est plus attractif. On avait déjà fait une émission là-dessus il y a à peu près 2 ans. Et est-ce que les conditions de travail sont plus difficiles? Comment gère ça ton fils?
Là, mon fils est carrément dans l'incertitude sur la prochaine rentrée. Puisque lui, il est toujours TZR. En Alsace, c'est compliqué pour avoir un métier à un poste fixe.
Oui.
Donc, ça fait 5 ans qu'il est en Alsace, mais 5 ans qu'il est toujours TZR. Parce que, bon, c'est compliqué ici pour voir des gens qui partent.
Ça doit être compliqué pour lui aussi. Voilà. Parce qu'il peut du jour au lendemain être dans un autre établissement ou dans une autre région.
Cette année, il est sur 2 établissements. Il est en lycée et collège. Donc, il a repris. Bon, il a la majorité de temps en lycée, avec des secondes terminales. Et là, une partie, c'est à peu près 6-7 heures au collège. Mais il faut qu'il fasse. Donc, il est pratiquement au collège, il est à la limite de la Suisse.
Et c'est dans la même ville ou c'est.
Non, voilà. Le lycée est à Mulhouse et le collège est à 30 km à la frontière suisse.
Que moi, j'avais une prof qui faisait 40 km pour 2 heures de cours.
Oui, non, mais lundi, c'est démotivant.
Le lundi, c'est 60 km pour 1 heure de cours.
Voilà, oui.
Oui, ça, donc, c'est... Et c'est vrai, ça, le public n'est pas au courant de tout ça.
Non, c'est très compliqué. Et puis, on voit l'incertitude. Là, il a fait ses voeux, enfin, tout ça. Et là, il saura que, théoriquement, entre mi- à fin juillet.
Oui, donc
dans l'absolu, parce que ça peut aller jusqu'à fin août ou tout début septembre.
Donc c'est compliqué pour certains professeurs. Donc, si on est dans une région et qu'on se voit muter dans une autre région, c'est compliqué pour le logement, je suppose.
C'est surtout très difficile.
On ne sait jamais, les TZR, on ne sait jamais, ils ne savent jamais où ils vont aller.
C'est surtout très difficile de comprendre comment on ne peut pas s'organiser autrement, surtout avec une pénurie de professeurs. Il y a un truc qui
De toute façon, la pénurie de professeurs, on s'en doutait déjà un petit peu quand on voit tous les non-remplacements de professeurs malades.
Non, mais comment on peut pas, on n'arrive pas à s'organiser autrement.
Ah non,
comment,
Et ça fait des années, oui, que ça dure.
Oui.
Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur le métier d'enseignant en Finlande, qui est considéré comme étant un expert à qui on fait confiance. Ça, c'est intéressant. Donc, ce qui va leur donner une grande liberté pédagogique. En France, l'enseignant est souvent évalué, notamment par les résultats de ses élèves, ce qui peut le mettre dans une position délicate, la lourdeur des programmes, poussant à enseigner plus avec un temps très réduit. Et je voudrais là qu'on écoute une émission, c'était Apolline Matin sur RMC, avec Apolline de Malherbe, un professeur qui intervient.
Comment est-ce que vous expliquez cette pénurie de vocation?
Tout simplement parce que les gens commencent à comprendre que le système éducatif français est complètement pourri, que l'éducation nationale est une machine à broyer du prof, on est extrêmement mal payé, mal considéré, que on est aussi bien payé, on est ce qu'on appelle une catégorie A, c'est-à-dire qu'on est censé être les mieux payés dans le ministère de l'éducation, sauf qu'on est aussi bien payé qu'un catégorie C, les moins bien payés.
Il n'y a plus de différence
des finances. Donc,
ça veut dire concrètement combien? Par exemple, vous, Franck, vous avez combien d'années d'expérience et vous êtes payé combien aujourd'hui?
Alors, moi, je suis donc bac plus 5. J'ai été contractuel pendant 5 ans.
Oui.
Je suis après 5 ans en tant que prof et je gagne même à peine le SMIC, même pas 2000 € net.
D'accord. Donc 5 ans d'études, 5 ans contractuels, 5 ans titulaires. Donc vous avez 10 ans d'expérience et vous en êtes toujours à 2 000 € net.
Oui, et puis comme l'a dit
l'auditeur tout à l'heure, Teddy.
Voilà, Teddy, alors c'est pas une sinécure, comme il a voulu dire, que effectivement il avait un.
Il trouvait
sympa, mais c'est pas aussi sympa que ça. Il y a ceux qui se trouvent la vocation et du coup c'est vraiment effectivement c'est super, mais Le système fait que, et le fait qu'on ait le nouveau programme de Monsieur Blanquer fait que on doit enseigner toujours plus à des élèves qui n'en savent toujours moins et dans un temps qui est toujours plus réduit, on a plus de charges de travail, on a plus de devoirs.
Vous, je vous sens quand même assez découragé, Franck, quand vous dites c'est une machine à broyer, ça veut dire que si aujourd'hui on vous propose de changer de job, vous partirez?
Ah mais moi je compte démissionner.
Vous comptez démissionner?
Je compte démissionner. Ouais. Et je déconseille à quiconque qui espère, enfin qui souhaiterait faire prof, je lui raconte tout ce qui se passe, tout ce que j'ai vécu, tout ce que beaucoup d'autres ont vécu, parce que c'est juste un calvaire. On est considéré comme des vendeurs de services. On n'est pas du tout considéré comme des enseignants. On est là pour vendre du service, pour vendre du savoir, au même titre que ce que vous pouvez trouver sur Internet, comme disait celui de
les tutos et autres. Franck, juste encore un mot. Quand vous dites je compte démissionner, vous avez déjà prévu la suite? Vous voudriez faire quoi?
Moi, on m'a proposé. J'ai plusieurs pistes entre l'immobilier, les assurances, n'importe quoi sauf l'enseignement. C'est
Le décalage entre l'image ministère. Que vous aviez. Alors, un autre ministère, ça veut dire rester quand même fonctionnaire.
Oui, mais être payé au vrai titre que l'on est censé être. C'est-à-dire que niveau A, je suis pas payé comme un agent de niveau C dans un autre ministère.
On entend ce découragement, Franck. Franck qui dit je déconseille à tous ceux qui souhaiteraient l'être. Alors, il y en a déjà pas beaucoup qui souhaitent l'être, mais quand on vous entend, Franck, on se dit qu'il y en aura encore moins. Merci en tout cas de votre témoignage.
Alors voilà ce qu'on peut entendre actuellement vraiment sur tous les médias. Hein. Ne soyez pas prof car on gagne pas grand chose, quoi, voilà. Donc lui parle de vendeur de services, vendeur du savoir. On voit vraiment là qu'il est découragé. Heureusement, moi quand je vais dans les écoles, dans les établissements scolaires, je peux vous dire que j'ai des professeurs qui ne sont pas du tout découragés, qui en veulent et se battent énormément pour les enfants. Alors, on voit effectivement un manque de considération, souvent seul. Le métier est-il devenu une marchandisation des compétences, détruisant un peu les vocations? Écoutez, moi, je parle à des professeurs. Je ne sais pas si c'est le cas Gérard et puis Monique, même Béatrice. Tous les professeurs ne sont pas découragés.
Qu'il y ait des problèmes dans tous les métiers, de toute façon, on rencontre des problèmes. Je crois que ce qu'on vient d'entendre... Que la personne me pardonne, mais je trouve que c'est caricatural et même... Il y a un sport national qui est quand même de se plaindre et de trouver que
mais
rien ne va.
Je crois que les
va,
Français aiment bien se plaindre.
Je pense aussi qu'on a des équipes dans les établissements scolaires qui mettent les problèmes sur la table et qui se disent comment on va résoudre ces problèmes. Mais c'est vrai dans tous les métiers. Dans tous les métiers, c'est les choses sont pas linéaires, les choses sont pas se mettent pas en équation. Dans les établissements scolaires, oui, il y a des gens qui sont fatigués, qui parfois sont découragés, mais on rencontre aussi plein de gens qui se lancent dans des projets pour avancer, pour résoudre des problèmes qu'ils rencontrent.
Mais ce qui les décourage surtout, c'est le fait d'avoir 30 enfants dans une classe.
Oui, tout à fait.
Et de ne pas pouvoir aider ceux qui ne suivent pas. Parce que il y en a toujours qui sont hauts, il y a toujours les moyens, mais ils n'arrivent pas.
Oui, mais ça, ça a été vrai tous les temps,
oui,
Gérard.
Mais bien sûr.
Tous les temps, ça a été comme ça.
Et quand on entend certains qui sont découragés par ça, parce qu'ils voudraient bien pouvoir.
Mais oui, puis tu en as d'autres qui disent ce qui est décourageant, c'est qu'on est obligé d'en attendre, et donc on laisse stagner.
Peu...
Mais c'est vrai pas. Enfin, ça a toujours été vrai, ça. Après, on peut se poser des questions sur des niveaux à partir de l'élémentaire et amener des enfants à avoir un niveau suffisant pour qu'ensuite les professeurs ne soient pas bloqués par du quasi-illettrisme en collège, par exemple.
Bah oui,
mais qu'il y ait des enfants de différents niveaux. Y a les enfants qui ne sont pas encadrés chez eux, de toute façon, ils vont être à la traîne.
C'est vrai ce que tu
assez
dis.
Assez systématiquement. On peut se poser des questions sur le rôle de tout le monde.
C'est vrai.
Des parents, du voisin qui voit que les
des
parents ne font pas
aussi,
des adultes, des pédagogues citoyens.
Mais c'est vrai ce que tu disais, mais la problématique, c'est que en quelques temps, hein, c'est plus la même génération. C'est vrai que nous, on était 30 par classe, mais il y avait une certaine discipline. Maintenant, c'est peut-être plus compliqué aussi pour les professeurs. Est-ce qu'il manque de formation au niveau de la gestion des classes? Je n'en sais rien. Mais c'est peut-être une question aussi à se poser. 30 élèves, effectivement, c'est beaucoup maintenant. C'est énorme. Alors, c'est vrai que maintenant, en CP, CE1, ils sont 14 ou 15 élèves. Et les professeurs, surtout nous, on est en REP+, hein, on va dans les écoles REP+, donc réseau d'éducation prioritaire. Le fait d'avoir 15 élèves, ils peuvent effectivement travailler un peu plus au rythme des enfants. Donc ça, c'est pas mal. Tu voulais rajouter quelque chose, Jackie? Allô, allô?
Il est parti, Jackie.
Donc, je me tourne. Là, il en a marre. Il est parti visiter les Vosges et il a bien raison. En coaching, comment intervenir auprès des professeurs qui sont plus ou moins en détresse ou qui demandent une aide? La hiérarchie aussi, comment peut-elle les soutenir? Comment fais-tu, toi, quand tu arrives donc, au collège ou au lycée pour aider les professeurs?
Alors, en fait, on a travaillé en ce qu'on appelle en analyse de pratique professionnelle. C'est quelque chose que j'ai fait au lycée au collège de Montataire entre 2015 et 2020. Et là, on m'a demandé de le faire l'année dernière au collège d'Avès de Creil, puisqu'il y avait une plainte des professeurs. Il y avait un certain nombre de jeunes professeurs qui n'allaient pas bien. Et donc, il y a eu une demande auprès de l'assistante sociale de ce collège, qui, connaissant l'assistante sociale du collège de Montataire, m'a téléphoné et m'a demandé ce que je pouvais faire. Donc la proposition, c'est de faire de l'analyse de pratiques professionnelles. En fait, c'est un système où on prend 8 enseignants. L'idée, c'est de mélanger au maximum au niveau des enseignants, d'avoir des enseignants d'éducation physique, d'allemand, de maths, enfin voilà. Mais également mélanger en termes de compétences et d'ancienneté dans la profession. C'est-à-dire avoir des jeunes professeurs débutants et avoir des professeurs qui ont plus de bouteilles et qui ont plus d'expérience. Et puis, à partir de là, on fait un travail Alors, il y a tout un protocole, hein, et moi, je suis là en tant que coach garante du protocole, et où, en fait, la personne arrive et expose une situation qu'elle a vécue, une situation vécue avec des élèves, avec un groupe classe, avec des enseignants, avec des parents d'élèves. Elle parle de cette situation. Toutes les autres personnes qui sont présentes l'écoutent. Donc ça, c'est déjà important qu'elle expérimente ce moment où elle parle et elle fait une demande. Ensuite, nous avons une phase de questions dites de clarification. Puis, toutes les autres personnes qui ont écouté parlent à la personne qui a parlé initialement, qui, elle, reste en silence et reçoit toutes ces informations. Et donc, tout le monde dit, moi, ça me fait penser à ça. J'ai entendu une émission qui disait, ma dernière formation et ma grand-mère et mon dernier livre que j'ai lu. Et donc, on donne dans un sorte de brainstorming où on est tous là pour donner des choses à cette personne qui a fait une demande. Mmh. Ensuite, quand ça, c'est terminé, la personne reprend la parole et dit, dans tout ce que vous m'avez dit, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est ça. Et mon prochain petit pas, la prochaine chose que je veux faire, ça va être ça. Ces séances se déroulent dans le temps, donc c'est des séances de 2 heures, ce qui fait que dans une séance de 2 heures, en général, on expose 2 situations. Et un mois après, on reprend ces situations en disant, alors, depuis le mois dernier, as-tu fait tes petits pas? Comment as-tu pu avancer? Et finalement, cette méthode, c'est une méthode qui est assez cadrée, mais permet d'expérimenter des postures différentes. La posture de « je demande quelque chose aux autres » et c'est pas facile. On s'aperçoit que déjà oser demander, c'est déjà énorme.
Compliqué.
Ensuite, je reçois des informations, mais aussi à la situation suivante, je suis dans l'autre posture, c'est-à-dire voilà. Et donc, on expérimente des postures différentes, on expérimente des temps de silence, des temps d'écoute et finalement... ça fait progresser en termes de pratique professionnelle. À la fin de l'année, bien sûr, j'ai fait un bilan. Et ce qui est important, c'est de se dire... Tout à l'heure, on parlait des jeunes et de la motivation. L'éducation nationale est quand même Monique le disait tout à l'heure, peut-être quand même un peu fautive en termes d'organisation, parce que moi je suis toujours épatée de voir en zone d'éducation prioritaire à Montataire ou à Creil des jeunes professeurs issus par exemple de Toulouse ou de Perpignan ou de Grenoble, et c'est leur premier poste. Alors déjà on quitte la famille, on quitte ses racines, on quitte ses amis, on se retrouve dans l'Oise, qui est très joli, mais quand même.
Et puis en réseau d'éducation prioritaire.
Et en réseau d'éducation prioritaire. Alors bien sûr, en réseau d'éducation prioritaire, on a moins d'élèves et on a un certain nombre de primes qui les aident à s'installer, qui les aident à payer leur loyer. Quand on est jeune et qu'on débarque dans un coin qu'on ne connaît pas, c'est important. Mais quand même, c'est une charge qui est très lourde.
Ce qui est intéressant, oui, je te coupe de petites secondes, je m'excuse. Ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes professeurs, en fin de compte, ils viennent en réseau d'éducation prioritaire, mais on leur demande d'apporter des projets. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils sont très motivés pour faire des projets. Nous, on a des projets avec des écoles élémentaires de Montataire, et on voit qu'ils sont demandeurs, ils sont motivés. Et ces jeunes, on voit, ils arrivent dans l'éducation nationale et ils veulent vraiment forcer un peu les portes et aussi inventer peut-être un petit peu d'autres pédagogies.
Alors, les jeunes que j'ai eus là, ces deux dernières années au Collège Javel, ils avaient des projets, mais ce n'était pas ça l'essentiel. Je pense que pour eux, l'essentiel de ce travail, ça a été de s'installer dans leur pratique professionnelle et de se conforter dans leur posture d'enseignant, de bien voir quels étaient leurs rôles et jusqu'où aller ou jusqu'où ne pas aller dans leur rôle de professeur.
Oui, là, c'était professeur au collège. Oui, excuse-moi.
Je pense que dans tout ce que vient de dire Béatrice, il y a quelque chose qu'elle initie, c'est le partage d'expérience.
Bien sûr, le collectif.
Les professeurs, le collectif. Là, souvent, on constate que les équipes pédagogiques sont un peu en souffrance par rapport à ce partage d'expérience. Et pour celles qui s'organisent autour de partage comme ça, c'est fou les projets qui se développent.
Parce que souvent, ils n'osent pas parler devant d'autres profs. Enfin, moi, j'avais été à une formation sur les neurosciences. Il y avait des professeurs. Et à un moment donné, on nous demande de lire un texte ou de faire une petite pièce de théâtre. Et bien, les professeurs n'osent pas devant les autres parler.
Bon, j'ai là, tu n'as pas eu cette impression. Non, je n'ai pas du tout.
Bon, ben, c'est bien.
Puis, ce n'est pas pareil de faire une pièce de théâtre que de raconter une expérience.
Tout à fait. Par contre, il y a une chose. On voit souvent dans les collèges, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, moi, c'est des professeurs qui m'en ont parlé. Souvent, les professeurs de maths restent entre eux, les professeurs d'histoire-géographie restent entre eux. Et donc là, c'est bien parce que dans tes ateliers, en fin de compte, il y a un mélange des matières.
Et c'est quelque chose que j'ai demandé parce que je pense que les professeurs ont des pratiques très différentes. Quand on a un professeur de langue, le professeur de langue, lui, son objectif, c'est de faire parler les élèves. Donc là, c'est normal qu'il y ait un groupe classe avec des interactions. Mais comment faire parler les élèves sans que ça soit le chahut complet? Les professeurs de maths, finalement, n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Et les enseignants en éducation physique travaillent sur d'autres règles, sur d'autres fonctionnements et ont un autre regard sur les élèves.
Oui, tout à fait.
Un même élève qui peut être jugé comme un élève chahuteur et qui n'a rien envie de travailler en maths, peut être un leader et qui va même jouer un rôle d'arbitre, par exemple, en éducation physique. Donc ça, c'est intéressant aussi de s'apercevoir que la réalité de l'élève ne peut être extrêmement différente d'un professeur à l'autre et d'une matière à l'autre.
Ça, c'est bien de mélanger.
Mais ça se remarque aussi avec les professeurs qui nous disent telle classe, elle est bien. Et on parle avec un autre professeur qui nous dit celle-là,
non, pas du tout.
Franchement, on ne peut rien en tirer. Mmh. Donc on se dit, quel est le vrai du fond, quoi.
Monique.
Oui, ce que vient de dire Béatrice me fait penser aussi à une méthode qui est peu développée en France et qui est portée actuellement par France Bénévolat, mais qui se développe très difficilement, c'est l'aide entre pairs.
Oui.
Parce que les élèves qui ont effectivement des attitudes, je ne parle même pas de compétences, je parle d'attitudes dans certaines disciplines, peuvent aider d'autres élèves dans d'autres disciplines et vice-versa.
En fait, tout à fait. On avait fait une émission, je me souviens.
Je sais.
Ensemble.
Oui.
Il faudrait la refaire. Alors, on peut parler aussi peut-être du mal-être des enseignants, entre insultes, parfois menaces, que ce soit des parents, des élèves. Et l'enseignant doit avoir parfois quand même un moral d'acier, j'ai noté. En 2021, 4732 dossiers en protection juridique ont été ouverts, soit 19% d'augmentation par rapport en 2020. Comment faire, quelle assistance en fin de compte mettre en place, que ce soit au niveau de la hiérarchie ou du coaching? Là encore, c'est compliqué le mal-être des enseignants à ce niveau-là. Alors bon, nous en primaire, on rencontre pas ce style de problème.
Oups.
Ah bon? Au collège, ça se passe comment, toi, à ce niveau-là? Est-ce que c'est assez calme ou pas?
Certains collèges, moi, je suis surpris qu'en arrivant en classe, certains élèves tutoient leurs professeurs. Ça, c'est, je ne comprends pas.
Oui, on les appelle par le prénom.
Oui, les tutoient, les appellent par le prénom. Puis on sent tout de suite que dans la classe, ce n'est pas ça. Il y a une certaine discipline qui ne se fait pas. Après, pour nous, d'Ergijeune, on est dans cette classe pour pouvoir... C'est un peu le chahut, quoi. On n'arrive pas à faire ce qu'on devrait faire. Je ne sais pas si Monique elle a rencontré ça, mais...
Alors, si le professeur estime que c'est bien d'être tutoyé, personnellement, moi, je... C'est surtout les codes de vie en société. C'est un peu la liberté, c'est de pouvoir faire tout ce qui est permis par la loi. Bon, bah, faut rappeler la loi. Alors, dans les classes, il est toujours, dans toutes les classes où j'interviens, moi, je vois placarder des règles,
oui, des règles.
De vie en classe. Je pense qu'il y a un déficit d'éducation d'une manière générale, mais ce n'est pas seulement l'éducation, il y a également tout ce qui est porté par l'environnement. Regardez les débats politiques. Vous croyez que les gens ils se respectent dans les débats politiques? Bon, ben, on montre l'exemple. On dirait les gamins, ils regardent pas les débats politiques. Enfin bon, c'est que toute la société est faite ainsi et on a l'impression qu'on brille quand on trouve le mot le plus dur à jeter à la tête de l'autre. Alors, il y a aussi un déficit de mots, M-O-T-S, pour échanger
Le
sur
vocabulaire,
des sujets.
Ben, c'est ça, oui.
On peut ne pas être d'accord, on peut élever le ton, on peut dire les choses, on n'est pas obligé de s'insulter. Et j'entendais l'autre jour un gamin dire à un autre « Pourquoi tu m'as appelé fils de pute ?»« Oh, bah, tu sais bien qu'on s'appelle comme ça, c'est gentil ce que je t'ai dit. »
Voilà. Il n'y a pas de limite.
C'est les codes. Mmh. Bah, c'est les codes. Donc, est-ce qu'on les remet en place ou pas? Après, les professeurs, oui, ils souffrent là-dessus. Mais moi, je suis admirative devant leur façon de réagir.
Ah oui, moi aussi. Hein.
Parce qu'il y a bien sûr ceux qui grimpent au rideau et qui se mettent même à insulter peut-être plus encore que l'élève l'a fait. Mais il y a surtout tous ceux qui parviennent à faire rebaisser la pression. Et...
Elle est bavarde, Monique. Tu nous passes le témoignage de Madame Clépal.
Bonjour, donc Isabelle Clépal. Retraitée de l'éducation nationale, anciennement professeur, puis proviseur. Bon, d'abord, je voudrais vous dire combien je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous, d'être en dialogue avec vous, en débat avec vous. Je me livre donc à un exercice solitaire, ce qui en soi est assez contraire à ma pratique. Voilà, donc j'ai bien lu votre accroche, lassitude et résignation, comment y remédier. J'ai trouvé que c'était peut-être une description un peu alarmiste, mais bon, lassitude et résignation sont des termes qui touchent aujourd'hui l'ensemble de la société et pas seulement l'école. Il faut reconnaître que nous traversons des crises importantes, inédites. Le Covid, la guerre en Ukraine, le climat. Ces crises sont-elles de simples turbulences ou des mutations profondes? L'avenir nous le dira, mais cet avenir dépend précisément de la part d'engagement et de responsabilité de chacun, depuis nos dirigeants, bien sûr, mais jusqu'à tous les acteurs locaux que nous sommes. Pour dire deux mots de la crise sanitaire, ça a été incroyablement difficile dans les écoles, les établissements scolaires, dans les familles aussi, avec des protocoles qui changeaient tout le temps. Mais regardez comment l'école a tenu grâce à l'engagement et souvent l'inventivité de tous les acteurs, les professeurs, les directeurs et directrices d'école, les chefs d'établissement, les parents également. Sortir épuisé de cette période me semble légitime. Ce qui l'est moins, c'est le manque de reconnaissance que ressentent les acteurs de l'école. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Concernant la crise de recrutement, c'est évidemment un vrai souci dans l'éducation nationale. Pourquoi ce métier n'attire plus? Il y a incontestablement des urgences en termes de revalorisation salariale. Mais c'est un leurre de penser que tout réside là. Pour se projeter dans un métier, il faut, me semble-t-il, avoir des perspectives dignes en termes de rémunération. Mais aussi, on sait qu'il y a bien d'autres facteurs qui sont nécessaires. L'exploitation de compétences acquises, la reconnaissance de ces compétences, des conditions de travail et de relations attirantes, du plaisir professionnel et des perspectives d'évolution. Alors, heureusement, dans ma carrière et encore maintenant, je croise une très grande majorité d'enseignants qui aiment leur métier. Ils aiment leur discipline, ils aiment la transmettre, ils aiment la relation aux élèves, ils font des projets, ils parviennent à intéresser les élèves et les font progresser. Ce dont il faut sortir, me semble-t-il, surtout face aux critiques, aux remises en cause, aux comportements difficiles de certaines classes, oui, ce dont il faut sortir, c'est la solitude du métier. Il ne s'agit pas de se forger un caractère en béton, comme je l'ai lu, mais de se sentir porté et donc fort par un collectif qui donne sens, qui permet de s'interroger. On évoque souvent le modèle finlandais. Bon, il faudrait nuancer car tout n'est pas comparable dans nos sociétés. Mais il y a un point pour moi qui est très important. Les enseignants finlandais bénéficient de 2 heures de formation continue par semaine. Par semaine. Certains de nos enseignants n'ont pas du tout de formation durant toute une année scolaire. Et qu'est-ce que c'est ces 2 heures de formation continue? Ce sont 2 heures où collectivement, d'abord on se pose, on s'interroge, on cherche des pistes d'amélioration, qu'elles soient d'ordre éducatif, pédagogique ou didactique. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et c'est le moyen de voir qu'on peut améliorer les choses localement, avec les acteurs de terrain, avec les partenaires, avec les parents et les élèves eux-mêmes, sans attendre une énième réforme qui nous use. Car on est dans cette contradiction en France. Un empilement de réformes successives qui épuisent les personnels, ce fonctionnement très très vertical du système, mais quelque part, on a aussi une difficulté à se saisir des marges d'autonomie que nous avons localement pour mieux nous organiser, pour mieux travailler ensemble. Or, je vous le garantis, c'est possible. Vraiment, localement, on peut faire beaucoup, changer des choses. Les chefs d'établissement ont sans doute une responsabilité particulière en la matière. Mais on ne peut rien faire sans l'expertise et l'inventivité des enseignants, sans l'apport des ressources extérieures, et bien sûr, sans l'engagement des élèves et la confiance des parents. Et cette question de confiance, bon, c'est évidemment essentiel, et la confiance, elle ne se décrète pas, même si une loi porte son nom, l'école de la confiance. Et ça, je crois que chacun dans sa fonction, dans sa position, dans sa situation vis-à-vis de l'école, chacun a cette responsabilité. Comment je participe à la confiance en l'école ou en sa défiance? Comment je véhicule un discours négatif sur les enseignants ou comment je reconnais leur engagement? Comment j'enferme les jeunes dans des perspectives alarmistes ou comment je les encourage jusque dans leurs rêves pour maintenir en eux le goût de l'avenir? Pour moi, c'est vraiment là que réside l'essentiel. Et cet exercice-là de responsabilité ne peut pas se vivre individuellement, chacun dans son coin. La confiance, c'est une qualité qu'on partage, qu'on se construit ensemble. Et donc, si j'avais un mot à dire, c'est vraiment ça. Reconstruisons du collectif localement. Et un collectif qui regarde l'avenir avec, bon, bien sûr, réalité. Hein, il ne s'agit pas d'être les bénis oui-oui. Non, mais vraiment avec, quand même, avec optimisme. Nos jeunes ont besoin de l'optimisme qu'on leur transmet. Voilà, c'est ça que je veux dire et je vous encourage, bien sûr, et je vous félicite pour votre action là, auprès de, justement, auprès de tout le monde, de la société. Voilà. Mais véhiculez vraiment par les médias, c'est ce que vous faites, des choses positives, des témoignages positifs, de gens qui s'engagent, et puis bon, vous en recevez aujourd'hui. Et dans la société, il y a beaucoup de gens qui sont, même s'ils ne sont pas enseignants, ils ont envie de croire en la jeunesse et croire en l'avenir. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop longue, pas trop brouillonne non plus. Vous ferez ce que vous pourrez là. Ce témoignage, j'aurais envie de dire plein d'autres choses, mais le temps vous est compté et le mien aussi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, donc c'était le témoignage donc de Madame Clépal, hein, donc ex-proviseur. Donc bon, bah, je crois que tout est dit. Hein, la crise du recrutement, solitude du métier, l'école de la confiance. Et puis bon, c'est peut-être aussi à nous, bah, effectivement, d'être optimiste au niveau avec les jeunes. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce témoignage? Comment vous l'avez vécu, ce témoignage?
Moi, j'étais très heureuse d'écouter Isabelle, parce que c'est Isabelle Clépal qui m'a permis de me lancer au lycée de Montataire dans une mission qui s'appelait Sciences Po, à l'époque, Atelier Sciences Po, et donc qui est là également. Le Coaching Sans Frontières intervient en complémentarité du travail des enseignants. Et donc là, à cette occasion, j'ai pu rencontrer des élèves extraordinaires, mais aussi des professeurs qui sont liés autour d'un projet pour ces élèves et qui donc, là, j'ai rencontré des enseignants motivés, intéressés et passionnés par tout ce qu'ils faisaient. Et donc là, je pense que c'est quelque chose d'important de pouvoir recevoir des témoignages comme celui
positif,
d'Isabelle.
Ouais, positif. Positif,
extrêmement positif.
Alors là, on va mettre l'intermède musical et on reviendra un petit peu sur ton atelier que tu faisais donc pour les élèves de Sciences Po. Et que tu fais, excuse-moi.
Qu'est-ce tu veux faire quand tu seras grand? M'avait demandé l'institutrice. Ben je voudrais chanter pour les gens, pour qu'ils aient le cœur un peu moins triste. Je voudrais me retrouver dans 30 ans sur une scène face à mon public, pour partager de l'amour et puis toutes nos peines. J'étais loin d'être le plus brillant, je n'avais pas souvent 10 sur 10. Mon prof de maths, monsieur Méchevant, prétend que je ne suis qu'un fumiste. Qu'avec la vie, avec le temps, je finirai sûrement RMI. Moi je ferme les yeux, je m'imagine avec vous sur scène. Je me suis fait des promesses dont le cœur se souvient. Quand je vise le sommet, je regarde plus loin. Je veux suivre mon étoile, celle que mes lunes me dévoilent, pour donner vie à mes rêves de gamin. Ma conseillère d'orientation veut m'orienter dans le bâtiment. Et quand je lui parle de mes chansons, elle me dit d'arrêter gentiment. Y a pas de débouché de toute façon, dit-elle d'un ton décourageant. Vous feriez mieux de garder les deux pieds sur terre. Et puis quand je rentre à la maison, j'entends se disputer mes parents. Qu'est-ce qu'on va bien faire de ce garçon? Laisse-le tranquille, ce n'est qu'un enfant. Personne pour prêter attention à ce à quoi j'aspire vraiment. Je me suis forgé un mental que nul doute ne freine. Je me suis fait des promesses dont le cœur se souvient. Quand je vise le sommet, je regarde plus loin. Je veux suivre mon étoile, celle que mes lunes me dévoilent.
Voilà, donc c'était Nassi, rêve de gamin, qui arrive juste après donc le témoignage de Madame Clépal, où là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de positiver. Et il y a des paroles comme « pour donner vie à mes rêves de gamin ». Gérard, à toi.
Là, tu m'as squeezé. Alors, notre thème du jour, lassitude et résignation, comment y remédier ? Pour cela, nous recevons Monique Fournier, ancien membre du GR21 et co-créatrice de l'émission Pédagorando et ancienne chroniqueuse, ainsi que Madame Bouvry Béatrice, coach à l'association Coaching Sans Frontières. Maintenant, nous allons voir la détresse des élèves.
Alors là, on revient un petit peu vers Béatrice. Alors, tu nous disais juste avant l'intermède musical que tu avais vu des élèves et coaché des élèves dans les ateliers Sciences Po, c'est ça ?
Alors, il y a deux types d'ateliers. Il y a un atelier, effectivement, Sciences Po, qui existe depuis 2013 au lycée de Montataire. Mais là, finalement, je ne sais pas si ce sont des élèves en détresse. Ce sont des élèves qui sont en devenir et qui sont poussés et qui ont des bons résultats scolaires et donc dont l'objectif est de rentrer, était dans un premier temps de rentrer en Sciences Po. Depuis 2 ans, cet atelier s'est transformé en atelier tremplin plus. Et donc, l'objectif est de rentrer soit à Sciences Po, mais ça peut être également à Dauphine, dans des prépas. Et voilà. Notre intervention, c'est toujours en complémentarité du travail des enseignants. L'année dernière, sur les 21 élèves, 14 ont mis Sciences Po dans leur vœu, 9 ont été retenus à l'oral, 5 ont été admis. Et une jeune admise à Sciences Po Paris a préféré aller en prépa à Fénelon Paris. 4 ont intégré des classes préparatoires, 2 ont été pris en double licence, 2 en double licence, 1 à l'ESSEC. Et beaucoup ont eu de très bonnes notes à l'oral du bac. Donc ça, je ne pense pas que ce sont des élèves en détresse. Ce sont des élèves qui ont besoin de soutien, qui ont besoin souvent de dépasser un certain plafond de verre et qui ont besoin d'un accompagnement de coaching de façon à pouvoir s'exprimer dans des oraux, et ce qui est quand même très difficile à leur âge.
Oui, et prendre confiance aussi en soi.
En soi. Donc voilà. Ça, c'est des ateliers qui existent depuis 2013. Et également, depuis 2015, je fais des ateliers au collège de Montataire avec des jeunes en troisième. Et on fait un travail par rapport à la visualisation, par rapport à leur avenir, par rapport à quel peut être leur avenir. Et de façon aussi à travailler avec eux sur la représentation de ce qu'ils veulent faire plus tard, et aussi de travailler sur le fait que aller dans un lycée dit général n'est pas forcément la bonne solution, et qu'on peut avoir une vie épanouie en ayant fait un bac pro et donc preuve à l'appui. Mais à partir d'exercices simples, je pense qu'ils arrivent à se rendre compte de ça. Et on a des résultats.
Et les élèves de 3e, tu sens une lassitude vis-à-vis de leur orientation ou de leur avenir ou pas du tout ? Est-ce que tu les sens motivés ?
Alors, je pense que certains élèves, c'est simple, hein, depuis qu'ils ont 5 ans, ils veulent faire danseuse étoile ou vétérinaire. Donc ça, c'est la vocation, c'est simple. Mais en général, ce qu'on rencontre, c'est des élèves qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Et parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Quand on commence à faire des exercices pour leur apprendre à mieux se connaître eux-mêmes, finalement, ils sont plus sur deux. Là aussi, on travaille en groupe de pairs et les pairs leur apportent des éléments. Et finalement, ils arrivent à se construire une autre image d'eux-mêmes et se dire « Ah ben oui, mais finalement, moi, ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est de faire de la cuisine. Et finalement, j'ai envie de travailler en équipe. Et j'ai envie, voilà. Ou j'ai envie de travailler à l'extérieur. J'ai envie de... » Voilà. Et donc, à partir du moment où ils arrivent à se faire une représentation différente de leur avenir, ils peuvent sortir du schéma qui est souvent imposé par les parents, qui est « tu vas faire une seconde générale parce qu'il faut faire une seconde générale ». Non, on peut faire une seconde professionnelle, s'intéresser à ce qu'on fait, être valorisé parce qu'on a de meilleures notes quand on fait des choses qui vous intéressent, et puis avoir un métier bien payé et épanouissant plus tard.
Gérard et puis Monique
Ben moi, je pense que attaquer ça à la troisième, il est trop tard. Parler métier trop à partir de la troisième, il est bien trop tard. Ça devrait commencer dès la cinquième.
Cinquième, sixième, oui.
Nous, maintenant, avec Énergie Jeune, les quatrième, moi, j'ai complètement abandonné le programme Énergie Jeune de quatrième et je fais que deux sessions de parlant que métier. Et je vois que les quatrièmes, ils sont enthousiastes. Mais à partir de la troisième, pour moi, il est trop tard.
Il est trop tard. Mais ah oui, parce que l'orientation, c'est en fin d'année de troisième. Donc, c'est vrai que ça fait très court pour aborder ce sujet. Et donc, les élèves de cinquième sont réceptifs aussi à ce genre d'atelier.
Pour l'instant, un peu... moi, j'ai peut-être quatrième. L'année prochaine, avec Énergie Jeune, j'ai peut-être le programme de cinquième. Je vais peut-être le squeezer encore. Et pour repartir un peu sur la troisième session parlant métier, pour les préparer à la quatrième.
Et comment tu fais tes ateliers alors pour leur parler de leur avenir, de leur métier, pour les motiver?
Je trouve que les deux formations qu'on fait en quatrième sont très 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 bien faites. C'est des petits, des petits ateliers où on leur présente certains métiers, puis c'est à eux de décider qui est capable de leur venir en aide. Moi je vois par exemple, on a fait un truc sur le cinéma, on lui a dit vous êtes quatre, vous avez un film à faire. Avec qui allez-vous travailler? Puis alors là, on a des surprises phénoménales. Puis on leur dit, vous n'avez pas oublié quelqu'un, vous êtes sûr? Essayez de réfléchir, qui pourrait vous aider? Ben, c'est ça, les maires, voilà. Essayez de faire ça en troisième, et après, les troisièmes, ils sont là, et se dire, on va aller en seconde.
Oui,
ah non, non, il est trop tard.
Monique,
moi je pense qu'il y a alors je suis complètement d'accord avec Gérard et il me donne une idée, c'est que moi j'avais pas osé dévier des programmes Énergie Jeune, mais je crois que je vais le faire parce que le programme Cap Orientation est vraiment génial.
Ah oui, oui, oui.
Je crois qu'il résout le problème que je vais évoquer, c'est qu'on dit toujours aux jeunes qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais c'est pas un métier. Alors, on développe un autre projet que Gérard connaît bien, puisque Agir ABCD le développe. Moi, je le fais aussi sur les Yvelines. C'est compteur de métiers. Et que des élèves choisissent un métier. Alors, par exemple...
Facteur,
oui, mais il y en a d'autres. Médecin, infirmière...
Enseignant.
Ils ne le choisissent jamais, c'est très curieux.
Et c'est étonnant.
Très curieux. Et ils choisissent donc un métier. Après, ils vont réfléchir aux questions qu'ils voudraient poser à un professionnel qui exerce ce métier. On va chercher ce professionnel, le professionnel vient, ils interviewent le professionnel. Et là, ils s'aperçoivent qu'autour de ce qu'ils croyaient être un métier, il y a plein de métiers. Et que quand, en fait, ils rêvaient de quelque chose, peut-être, dans la mesure où ils rêvent, mais ce n'est pas forcément le métier auquel ils pensaient, c'est qu'il y en a plein d'autres. Et que ça peut évoluer en cours de carrière, et que ça peut donner l'idée d'un autre métier qui est totalement annexe. Et donc, ils découvrent que ce qu'il faut, c'est qu'ils cherchent en eux quels sont leurs goûts, quelles sont leurs envies, mais pas un métier. Et je crois que ça, c'est...
Oui, mais quand tu parles d'un métier, c'est souvent les parents qui leur parlent en termes de métier. Alors oui, que quand on commence
C'est beau quand ils leur parlent en termes de métier, parce qu'on a interviewé les élèves de plusieurs classes en leur demandant qui parle avec vos parents de métier. J'aime autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup, ça c'est clair.
Et ça devient dramatique aussi, ça fait partie de l'éducation.
Ouais. Et puis il faut peut-être dire aussi, être un peu plus optimiste, comme le disait Madame Clépal, c'est leur dire effectivement, vous choisissez une orientation, mais il faut savoir que la formation est possible, échanger de métier toute la vie, il y a des possibilités.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on les enferme dans un entonnoir.
Tout à fait, mais d'ailleurs, c'est Isabelle aussi qui disait, il y a des élèves qui, dans leur stage, vont quitter le milieu scolaire pour foncer sur le métier qu'ils voient et auquel ils participent dans leur stage. Alors pourquoi ? Parce que le professionnel, lui, il a besoin de main-d'œuvre, alors il va essayer de l'accrocher. L'élève, il se dit, bon, il y a un petit salaire au bout, c'est déjà ça, donc il y va. Mais je pense que c'est réjouissant, ça. C'est réjouissant de voir que des élèves se précipitent vers quelque chose qu'ils accrochent. Et, mais le tout, c'est après d'être capable de leur permettre de poursuivre c'est des formations, y compris des formations générales, qu'il est important d'avoir de la culture dans pas mal de...
Alors c'est vrai, tu viens de le dire, ces derniers jours, les médias ont alerté sur les départs d'élèves de bac pro avant même d'avoir obtenu leur diplôme, donc le bac, pour aller travailler. Et donc, c'est souvent après les stages en entreprise, les professeurs ont remarqué une augmentation de décrochage scolaire. Car une proposition d'embauche est faite. Ah ben eux, ils appellent ça du décrochage. Voilà, oui.
Bah moi, j'appelle pas ça du décrochage.
Alors on argumente souvent sur la formule magique, en fin de compte, du milieu social défavorisé. Cet élève a quitté pour effectivement avoir l'attrait de l'argent, un besoin d'argent. Alors moi, je suis pas tellement sûre là-dessus, parce que on met toujours ça, sur le milieu social défavorisé. Peut-être que les jeunes aussi en ont peut-être un petit peu marre de l'école, peut-être à quelques mois de passer le bac. Là, c'est une opportunité pour eux. Et puis...
C'est même pas une question d'en avoir marre. Ils font quelque chose
qui leur plaît.
Réjouissons-nous.
Et alors, on peut se poser quand même une autre question. Est-ce que le bac pro, comme le bac général, représente-t-il encore quelque chose pour les jeunes comme pour les entreprises ? En fin de compte, qu'est-ce que ça représente encore quelque chose ? Si les entreprises préfèrent prendre tout de suite après le stage un jeune et qu'il n'ait pas son bac, c'est qu'il voit peut-être la motivation du jeune, sa personnalité, et se dit peut-être, je le prends tout de suite. Et c'est peut-être dommage pour le jeune de ne pas avoir de diplôme par la suite.
Mais je ne suis pas certain que les jeunes... Moi, j'ai deux cas, par exemple, à Senlis, où on a eu deux jeunes qui sont partis, dont un qui est parti en mécanique. Il n'a pas passé son bac pro, il va peut-être monter son garage, il est fier. L'autre, il est parti poissonnier chez Leclerc, et il s'éclate.
Oui, voilà, c'est ça.
Trouvé, mais...
Mais c'est peut-être la question qu'on peut se poser. Comment c'est peut-être aussi les entreprises qui se disent, après tout, le bac en poche, ça ne changera peut-être pas la motivation de l'élève. Mais par contre, c'est vrai que l'éducation nationale s'inquiète parce qu'ils se disent, on va se retrouver avec des jeunes sans diplôme si jamais ils se trouvent un jour sans emploi.
Oui. Alors, je pense que ça met le doigt aussi sur un autre problème. Il y a aujourd'hui des corps de métier qui manquent de main-d'œuvre. Oui. Donc, ils voient des stagiaires qui sont impliqués, qui font bien le boulot, qui correspondent à ce qu'ils veulent dans l'immédiat. Ils cherchent à les récupérer. Ça pose une question sur l'anticipation de la cohérence entre les formations et les besoins. Parce que pour manquer de main-d'œuvre sur des métiers qui ne nécessitent pas des grands diplômes, il faut quand même qu'il y ait eu un manque d'anticipation sur les formations. C'est tout un méli-mélo de problèmes qui aboutissent à une opportunité, la fois pour les élèves et à la fois pour les professionnels.
C'est vrai, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que nous les vieux, quand on pouvait quitter l'école, c'est-à-dire on pouvait faire un CAP, BEP à partir de 14 ans, maintenant il faut aller jusqu'en 3e. Donc il y a une perte de façon de parler, il y a quand même le général qui rentre en compte, mais ça fait 2 ans, en fin de compte, pour les jeunes qui veulent aller dans le professionnel.
Mais attends, il y a surtout le fait qu'on ne forme pas aux besoins futurs.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'avant le CAP, on quittait en cinquième et on faisait une quatrième, troisième de transition. C'était ça, c'est comme ça que ça s'appelait. Maintenant, on les fait passer en troisième, donc automatiquement, il y a ces 2 ans-là qui...
Je pense vraiment, personnellement, je pense qu'il y a une responsabilité du milieu professionnel qui n'est pas assez impliquée sur ces questions-là et qui ne n'influence pas les formations qu'il devrait y avoir pour les besoins futurs. Donc, ils travaillent au court terme. Ils ont besoin d'un marchand de poissons. Bon, ben, ils vont...
Oui, mais peut-être que les entreprises qui ont recruté des jeunes sans diplôme, c'est ce que vient de dire Sylvie, peut-être que ces entreprises vont s'apercevoir qu'ils peuvent ensuite accompagner ces jeunes en mettant en place des formations.
Ou pas.
Mais on peut aussi être optimiste et se dire que s'ils ont envie de faire progresser les jeunes dans leur entreprise, ils auront besoin que ces jeunes acquièrent d'autres connaissances, d'autres modes de faire et les faire monter par des formations. Oui. Mais ça, c'est possible dans des grandes entreprises. Peut-être que dans des petites entreprises, ce n'est pas possible et que ça devrait être des missions qui seront confiées aux chambres des métiers ou je ne sais pas.
Alors, en
là, on sort de l'éducation nationale.
Et en espérant effectivement que le fait que ces jeunes qui n'ont pas de diplôme, à part le brevet, ne se retrouvent pas en précarité par la suite.
Oui,
c'est ça aussi. Parce effectivement,
que tu sais qu'il y en a qui auront des tas de diplômes et qui seront précarés.
Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai.
L'éducation nationale a quand même en place des comités, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des représentants des différentes industries locales, du tissu local, pour orienter leur formation et leur formation, notamment leur formation professionnelle. Donc il y a des questions à se poser là-dessus. Est-ce que le tissu local est suffisamment impliqué dans cette démarche ? Parce que si on envoie dans ces comités, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais si on envoie des gens qui ne représentent pas vraiment, qui n'ont pas une vue anticipée des besoins...
Les besoins local, oui, tout
mais
à fait.
Pour revenir à Monique sur ce qui est fait en compteur de métier, nous cette année, on a été chercher des SECPA, qui sont partis bac pro, qui ont trouvé un métier, on leur a demandé de revenir.
Ah oui.
Et on les a interviewés là-dessus pour savoir comment c'était passé pour que ceux qui étaient là, nos quatrièmes SECPA, puissent entendre
la
bouche de ces élèves, comment ils ont réussi. Ouais. Et ça prouve que, c'est pas parce qu'ils sont en SECPA qu'ils sont pas capables. Ouais. Alors là, la SECPA a une très mauvaise.
La confiance qu'ils ont en eux, c'est terrible.
C'est terrible,
Alors moi, j'ai une nièce qui est 10, et donc elle pensait jamais y arriver, c'est pareil. Mais elle me dit, Sylvie, on m'a tellement dit que j'étais nulle, que je n'y arriverais jamais. Elle est contente, elle rentre en lycée. Et donc ma confiance était complètement nulle, je n'osais rien faire. Et donc petit à petit, c'est pareil, elle a eu quelqu'un qui l'a vraiment aidée. Dans ce cas-là, Béatrice, comment faire pour aider ces jeunes qui se sentent vraiment rabaissés parfois, sans le faire exprès, hein, professeur ne peut pas le... Luc me fait signe en même temps. Vas-y, Béatrice.
Alors, moi, je pense qu'en fait, c'est vraiment... Ce qui peut les aider, c'est soit effectivement un travail avec une personne compétente et qui va le faire avec un adulte compétent. Mais moi, je crois beaucoup au travail qu'on fait en groupe, où finalement, ce sont les autres élèves qui leur permettent. Par exemple, j'ai un exercice qui s'appelle « Raconte une histoire dont tu es le héros ». À partir de cette histoire, ils racontent quelque chose qui leur est réellement arrivé. Et ils disent, à partir de ça, je lui dis « Mais alors, quelles sont tes qualités ?» Alors, en général, ils se trouvent une ou deux qualités. Mais les autres qui sont là, autour... Je leur dis, et maintenant vous, qu'est-ce que vous avez trouvé comme qualité ? Et donc les autres disent, mais tu es aussi ça, tu es aussi ça, tu es aussi ça. Et là, on voit le jeune se redresser, se dire, ah bon, j'ai tout ça comme qualité ? Et je leur dis, notez, parce que remplir son catalogue de qualité, c'est se remplir de confiance. À partir du moment où et les jeunes se redressent sur leur siège, ils notent leur qualité et ils sont... Et ensuite, toujours pareil, le même exercice, c'est une autre personne qui prend la parole et tout le monde joue le jeu. Et ce jeu de la solidarité, de l'aide qu'on apporte à l'autre, ça les fait aussi se sentir grand et fort et utile. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur des exercices collectifs. On dit que la solution pour les enseignants, c'est du faire de collectif. Mais moi, je dis que faire du collectif pour des jeunes en quatrième et en troisième, et là, effectivement, je rejoins Gérard et Monique, il faut le faire le plus tôt possible. Sauf que ce n'est pas toujours possible dans les collèges. Moi, je préfère les avoir, effectivement, le plus tôt possible pour faire ce travail de connaissance de soi et de visualisation sur l'avenir.
Et puis, ça, le fait de faire du collectif, ça apprend aussi à connaître l'autre,
oui.
À échanger, s'écouter. C'est très enrichissant.
Je pense que
c'est toujours dans la positivité. Quoi. Oui. Voilà, c'est ça.
Et dans leur futur métier, ils travailleront souvent en collectif, donc c'est très important.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, peut-être qu'il n'y a pas assez de travail collectif dans nos écoles, sans doute. Nous, bon, on fait des ateliers ludiques et surtout, on leur demande toujours voilà, de travailler ensemble, de s'écouter. Et même quand ils poursuivent le programme, les professeurs se rendent compte qu'il y a effectivement une aide entre pairs, comme tu disais. Et ils arrivent à mieux se respecter aussi.
Parce que aider l'autre, c'est aussi valorisant. Quand on trouve le moyen d'aider l'autre, c'est aussi une façon de s'aider soi parce qu'on s'aperçoit qu'on vaut quelque chose et qu'on est utile à quelque chose.
C'est pour ça qu'il y a du bénévolat, d'ailleurs.
Mais ce que les enfants ont beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'ils croient qu'une fois leurs études ou partie de l'école, ils vont prendre un métier et puis c'est fini.
C'est fini.
Bah oui, on leur parle d'un métier.
Mais moi, quand je leur dis, mais vous savez que vous allez devoir apprendre toute votre vie, hein, ils me regardent avec des grands yeux, mais j'ai dit, il n'y a pas... Vous allez devoir vous remettre en question... tous les jours, quoi. Vous ne pourrez pas commencer un métier à votre âge à 20 ans et puis le faire de la même façon à 70 ans, vous serez hors jeu. Alors, ils regardent avec des grands yeux. Mais je dis, quand vous ferez votre stage, posez ces questions-là.
Mais c'est vrai, c'est important, hein, la formation. La formation, c'est tout au long de la vie, que ce soit au niveau des jeunes. On venait tout à l'heure aussi, on parlait des professeurs. C'est très intéressant qu'ils aient justement... moi, je pense qu'il y a un manque de formation. Comme disait tout à l'heure Madame Klepal, en Finlande, ils ont une formation 2 heures toutes les semaines en continuité. Ça, je pense que c'est intéressant. Oui,
c'est d'ailleurs surtout du partage d'expérience. Hein, a priori, c'est ce que fait Béatrice dans ses ateliers.
Que tu fais, voilà. Oui. Et comment est venue cette idée, en fin de compte de faire coach sans frontières et d'aller aider justement dans l'éducation nationale.
Alors, au démarrage, ce n'était pas dans l'éducation nationale. C'est l'opportunité de...
Avec Madame Klepal.
Oui, c'est l'opportunité de travailler au lycée de Montataire qui nous a orientés vers l'éducation nationale. On travaille également à Coaching sans frontières avec des fondations qui aident des jeunes, comme la fondation de l'envol de la Poste, ou qui accompagnent des jeunes depuis la seconde jusqu'à la fin de leurs études supérieures. Et nous, on coache les jeunes qui sont en difficulté. Et on travaille aussi avec Le Choix de l'École, qui est une association qui prépare des jeunes, qui prend des jeunes qui ont fait des études supérieures, par exemple Sciences Po ou l'ESSEC ou l'EDEC ou je ne sais pas quoi, et qui leur propose de travailler pendant 2 ans en éducation nationale, en zone d'éducation prioritaire. Donc ces jeunes sont formés pendant leurs 2 ans, et au bout des 2 ans, soit ils décident de rentrer à nouveau dans l'entreprise à l'extérieur, soit ils redécident de rester à l'éducation nationale. Et donc là également, on a coaché des jeunes qui étaient accompagnés par cette association. Voilà. Mais l'idée, c'est de... Voilà, c'est que le coaching, c'est pas uniquement pour les gens qui ont beaucoup d'argent. C'est surtout
alors
ça.
C'est vrai qu'on avait fait une émission, je ne sais pas si Gérard, tu t'en souviens, on avait fait venir Nathalie Mangani. Elle était intervenue lors d'un PR sur les 10 et les moyens mis en place. Et ça s'appelle « Être prof ». Alors, c'est très intéressant. Il y a des guides pratiques, il y a des fiches outils, des ateliers aussi pour faire évoluer les pratiques. Et tout est gratuit en ligne sur Internet. Et effectivement, eux, il y a un temps d'échange en direct d'une heure pour réfléchir avec des professeurs. C'est super intéressant et je suppose que vous avez aussi des fichiers que vous remettez peut-être aussi aux professeurs ou pas du tout. Pas du tout.
On est sur le ici et maintenant et dans ce qui voilà. Se passe dans l'atelier.
D'accord. Alors, on me fait signe qu'il n'y a presque plus de temps. Moi, je voudrais quand même que Monique me parle rapidement de « Et nous, que faisons-nous pour leur avenir ?» Pourquoi ce livre, c'était suite, quand on s'est connus, en fin de compte, suite à des ateliers, toujours en bénévolat.
Oui, alors c'était un collectif de citoyens bénévoles.
Apparemment, t'as que 2 minutes. Hein.
Oula, oui, bon alors, j'en ai parlé en début, donc on fait le début. Pourquoi le bouquin ? Parce qu'on a voulu laisser une trace de l'expérience et partager cette expérience, et notamment sur des points positifs, à savoir, Apollo 13 est revenu sur Terre, on ne va pas nous dire qu'on ne va pas réussir à régler un problème. Donc, c'est sur ce côté, si on y arrivera, et on arrive à régler des problèmes. sur le fait aussi que quand on rencontre un problème, ben, ou bien on le vit en pleurnichant passivement, ou bien on le vit en essayant de le résoudre et en le résolvant activement, et c'est quand même beaucoup plus agréable, on y trouve du bonheur. Donc c'est regarder la partie pleine, la moitié pleine du verre à moitié vide, plutôt que l'autre. Et puis c'est afficher aussi quelques perspectives de progrès qu'il faudrait vraiment arriver à mettre en place. C'est la débureaucratisation. Isabelle en parlait tout à l'heure sur l'empilement des projets. C'est sur le référencement des moyens locaux. Parce qu'il y a des moyens locaux, mais les gens ne les connaissent pas. Et donc, ils ne peuvent pas. Voilà.
Et puis, peut-être
puisque je n'ai que 2 minutes, je m'arrête là.
Et puis, peut-être aussi, au niveau des professeurs, faire confiance à leurs compétences, à leur inventivité. Voilà, on arrête là.
Eh bien, voilà, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Monique et Béatrice de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Elle sera diffusée pendant le mois de juin, le vendredi 10 à 19h, le lundi 13 à 16h30, le samedi 25 à 17h et le mercredi 29 à 2h du matin. Très bonne heure. Le thème du mois prochain sera, écoutez bien, les grands-parents et les vacances scolaires. Au revoir à tout le monde. Merci Luc à la technique.
Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dire à bande de feignants alors...